énervé.
Il est 10h.
RVE, le point sur l'actualité nationale et internationale.
Bonjour à tous. Olivier Véran refuse de parler de confinement en France. Le ministre de la Santé a insisté sur le fait que le gouvernement n'empêche pas les Français de sortir. Dans une interview accordée hier aux Parisiens, il a indiqué, je cite, « Ce terme évoque aux Français les semaines difficiles qu'ils ont passées enfermés chez eux ». Le ministre propose même un slogan pour ces nouvelles mesures imposées à 16 départements. « S'aérer pour souffler, se distancier pour se protéger ». Et pendant ce confinement, certains commerces pourront tout de même rester ouverts. Les coiffeurs, les cordonniers, les chocolatiers, les libraires ou encore les fleuristes pourront accueillir du public dans le respect des mesures sanitaires. Quelques 21 millions de Français sont concernés par ce nouveau confinement. Et contre le Covid-19, le président de Madagascar préconise de la tisane. S'il n'est pas contre les vaccins, il pense qu'ils ont trop d'effets secondaires. Selon lui, la tisane CVO à base d'artémisia et maintenant produite en gélules protégerait contre le virus. Les distributions gratuites de ce breuvage seront organisées demain dans les quartiers les plus touchés par la pandémie. Intempérie, Sydney s'attend à ses pires inondations depuis des décennies. Les services d'urgence australiens ont demandé aux habitants de quitter les parties basses de la ville. Le barrage qui fournit une grande partie de l'eau potable de Sydney a déjà débordé hier. Des pluies torrentielles sont attendues aujourd'hui. Dans l'espace, le plus gros astéroïde de 2021 va frôler la Terre aujourd'hui. Aucun risque de collision cependant, puisqu'il doit passer à 2 millions de kilomètres de la planète bleue. Les astronomes auront donc l'occasion de l'étudier cet après-midi. Aucun gros astéroïde répertorié n'a de risque de s'écraser sur la Terre dans le siècle qui vient. Il y aura 3 spin-offs de plus de Game of Thrones. C'est ce qu'a annoncé HBO. Aucune date de sortie n'a pour le moment été annoncée. Les fans attendent déjà de pied ferme House of the Dragon, le spin-off consacré à la maison Targaryen.
RVE, le point sur l'actualité locale.
Bonjour et bienvenue dans votre flash local. On commence tout de suite par Chevreuse où après plusieurs mois d'attente, le Conseil d'État a rendu son verdict au sujet des élections municipales de Chevreuse. Il confirme leur annulation. Les chevrotins vont donc devoir revoter. En effet, le 14 mars dernier, lors du premier tour, Anne-Héry Palek, maire sortante, rassemblait 1014 voix contre 1013 pour son adversaire Sébastien Cattaneo. Ce dernier avait immédiatement fait recours au tribunal administratif qui avait fini par lui donner raison. Un bulletin en sa faveur avait été invalidé à tort. Les deux candidats se retrouvaient alors à égalité parfaite. Après 3 distributions depuis le début de l'année scolaire, le conseil départemental distribue à nouveau 2 masques en tissu lavable à chacun des 83 000 collégiens yvelinois. Comme pour les remises précédentes, cette distribution se fait par l'intermédiaire des collèges. Depuis la première donation, ce sont donc 8 masques par collégien qui ont été offerts par l'institution, soit environ 670 000 masques en tout. L'annulation de la foire Ventose a été confirmée par la mairie de Dourdan suite à un arrêté du préfet de l'Essonne qui a indiqué que les manifestations regroupant plus de 1000 personnes étaient interdites. Par conséquent, la chasse aux œufs prévue le 4 et 5 avril au château de Saint-Jean de Beauregard est également annulée. L'établissement français du sang organise une collecte à Rambouillet et Saint-Arnoult en Yvelines. Cela se déroulera du lundi 22 mars au mercredi 24 mars à Rambouillet, au 14 rue des Antoinettes Verne, à la salle Verne. Pour Saint-Arnoult, ce sera le mardi 30 mars à la salle des fêtes Le Colombier. Dans les deux cas, les horaires vont de 14h30 à 19h30 et il est nécessaire de prendre rendez-vous sur monrendezvous-dondesang.efs.sante.fr. Vous pouvez notamment contacter par téléphone le 06 82 37 82 43 pour plus d'informations. Pour terminer, la ville de Maurepas vous propose une exposition virtuelle de la 36e édition du Salon d'art maurepasien. Vous pourrez déambuler dans la salle d'exposition selon un parcours prédéfini afin de visualiser les œuvres des artistes amateurs. À la fin du parcours, vous pourrez voter pour votre œuvre préférée et différents prix seront attribués aux participants, dont le prix du public. Rendez-vous pour cela sur le site maurepas.fr, rubrique Maurepart. La météo de ce dimanche contiendra quelques éclaircies tout au long de la journée. Nous aurons des maximales jusqu'à 12 degrés aujourd'hui. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et passez un très bon dimanche sur RVE.
Évidemment, on continue dans quelques instants avec votre émission Tribune Sport, présentée par Philippe Carnu, évidemment, jusqu'à 11h. Et avant, petit rappel que vous pouvez nous retrouver sur le site radio-rve.com ou encore la page Facebook Radio RVE. À présent, parlons sport sur votre radio locale. Très bonne écoute et belle matinée à tous.
Chaque dimanche, 10h-11h, sur RVE, retrouvez toute l'actualité sportive, locale, régionale, nationale et internationale dans Tribune Sport, avec Philippe Carnu.
Et oui, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver en ce dimanche 21 mars. Alors, certes, c'est le printemps aujourd'hui, mais à nouveau, donc, en période de confinement, donc, on va saluer nos deux invités de ce matin, avec qui on parlera hockey sur gazon, Gary Anort et puis Benoît Audoyer. Gary, bonjour.
Bonjour.
Merci d'abord de répondre à nos questions dans ces conditions un peu particulières.
Oui, tout à fait.
Hein, vous deviez être avec nous ce matin en studio, bon, conditions un peu particulières. Je suppose que, bah, à nouveau, c'est un contretemps pour votre club. Hein. Vous êtes président du hockey club de Maison Lafitte.
Oui, exactement. Voilà. Bon, en fait, comme on est un club qui forme les jeunes, les enfants.
Oui. Oui.
Nous avons l'école de hockey. Donc, notre cas particulier est assez chanceux parce que, comme tous nos joueurs sont des mineurs, sous les protocoles actuels, ils ont besoin de continuer leurs activités à l'extérieur, donc en plein air. Et donc, pour l'instant, même avec les changements les plus récents, nous avons pu continuer nos entraînements avec des jeunes. Nous faisons ça tous les dimanches matin actuellement en plein air. C'est vrai que normalement nous jouons en salle, mais depuis le troisième confinement, nous avons pratiqué le sport à l'extérieur, et les enfants sont plutôt ravis parce qu'ils ont besoin de sortir, se dégourdir un peu les jambes, se défouler un peu, et donc nous avons de la chance de pouvoir continuer à jouer en fait.
D'accord. Donc pour vous, c'est pas trop pénalisant ce troisième confinement pour le club.
Non, c'est pas trop pénalisant dans la mesure où on peut continuer à jouer et pratiquer le jeu. Bien évidemment, ça apporte un certain nombre de contraintes parce que pour l'organisation, c'est un peu plus compliqué pour les parents parce que le terrain à l'extérieur est un peu plus loin de la ville de Maison Lafitte. C'est à Saint-Germain-en-Laye, donc on utilise leur terrain pour le moment. Normalement, nous avons une salle à notre disposition à Maison Lafitte, donc il y a un peu plus de déplacement pour les parents et un peu plus d'organisation, mais globalement ça se passe bien.
Très bien, vous êtes combien quand même malgré tout, Gary, dans le club pour cette saison 2020-2021?
Nous sommes une petite trentaine avec trois dirigeants et un entraîneur qui nous aide, qui travaille pour le département, mais qui aussi est à la disposition du club.
Donc, ça fait une tranche d'âge assez large, assez représentée quand même.
Nous prenons les enfants. Bien évidemment, ça dépend de leur capacité physique, mais nous prenons les enfants le plus jeune, c'est 5 ans. On peut les prendre à 5 ans, oui. On appelle ça logiquement le bébé hockey. Nous mettons en place une organisation un peu particulière et une façon de les coacher un petit peu différente. On tient compte quand même de leurs limites physiques et leur jeune âge. C'est les premiers pas dans le sport. Hein. Et très souvent, c'est même leur premier pas dans l'activité physique au global. Plus ils avancent en âge, plus ils commencent à maîtriser un peu les techniques, la crosse, etc. Et en général, comme nous existons depuis 3 ans, pour l'instant, nous n'avons pas encore abordé le problématique de que faisons-nous avec des enfants qui arrivent à l'âge de 12-13 ans. Parce qu'en fait, le projet de Maison Lafitte Hockey Club, à la base, c'est d'être un berceau pour les joueurs, mais local, et ça nous permet en fait de former des joueurs qui vont aller plus tard dans les clubs un peu plus évolués, un peu plus grands, le niveau est quand même, si je peux utiliser le terme, un peu plus professionnel, et donc ils seront pris en charge par des coachs encore plus confirmés, et ils vont quand même évoluer dans ce sport avec des grandes écoles de hockey. L'exemple étant Saint-Germain-en-Laye, qui est un grand club, ou le Racing, ou éventuellement Jean Bouin, ça dépend où préfèrent aller les parents. Mais pour l'instant, nous avons relativement peu de jeunes à cet âge-là. Et on verra à quel moment on les libère pour aller dans les grands clubs où ils peuvent pratiquer le sport à un niveau un peu plus confirmé.
Oui, mais Gary, sur tous ces jeunes qui commencent, que vous formez, beaucoup restent, beaucoup continuent vers le hockey sur glace.
Ah oui. Alors, c'est pour l'instant, nous avons un niveau de fidélité assez soutenu. Hein. Moi, maintenant, j'ai certains joueurs dans le club, un bon groupe de 7 ou 8 joueurs qui sont là depuis le début. Et qui maintenant commence à faire preuve d'un bon niveau et qui commence sérieusement à pratiquer ce sport avec une certaine habileté. Mmh. Et donc, je suis ravi de notre taux de fidélité, si on peut le dire comme ça.
Alors, on parlera tout à l'heure des principaux clubs du département des Yvelines avec Benoît. Vous, j'ai cru percevoir une petite pointe d'anglais. Donc, vous venez d'Angleterre, c'est ça, hein?
Je viens d'Angleterre. D'origine. Oui, mes origines sont britanniques, hein, mais j'ai le plaisir de vous confirmer aujourd'hui que l'année dernière, j'ai eu le privilège de qu'on m'accorde la nationalité française aussi. Donc aujourd'hui, je suis j'ai la double nationalité. Voilà.
Mmh. Donc c'est un sport que vous avez découvert là-bas en Angleterre, sport très populaire là-bas. Hein.
Oui, tout à fait. Alors, il y a beaucoup de joueurs en Angleterre. En fait, le hockey, moi, j'ai commencé le hockey à l'école, parce que ça fait partie des sports. Dans le genre d'école où j'étais, on pratiquait le hockey, le cricket, le rugby, pas trop le foot, en fait, mais
bon, bizarrement,
c'est,
oui.
Bah, en fait, c'est un peu la alors à l'époque c'était quand même ces écoles privées en Angleterre ne pratiquaient pas trop le foot. Aujourd'hui c'est différent, mais bon, on faisait du foot pour en loisir, en jeu au football, oui, en loisir. Mais en fait un peu le principe des sports en Angleterre dans les écoles, hein, c'est que chaque trimestre a un sport différent. Et donc je faisais du rugby entre le mois de septembre et janvier. Après, à partir de janvier jusqu'à mars, avril, c'était le hockey sur gazon. Et en été, naturellement, logiquement, c'était le cricket. Donc moi, j'ai découvert que étant pas très très grand, je mesure aujourd'hui 1m74, et en fait c'est le rugby, c'est un sport qui favorise ceux qui poussent et qui sont très grands. Et en fait, j'ai adoré le rugby, j'étais un joueur de rugby jusqu'à l'âge de 21 ans, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment on se rend compte de ses limites physiques, hein. Et le hockey ne pose pas de problème. Voilà, c'est un sport qui enfin, toutes les tailles, même parfois les joueurs un peu plus petits, qui ont un bon équilibre, sont peut-être favorisés, je sais pas, mais en tout cas physiquement j'étais plus adapté au hockey que le rugby, je pense.
D'accord. Donc vous faites du hockey, j'allais dire assez tard, hein, sportivement, à 21 ans. Ça a été facile tout de suite?
Non, je faisais le hockey à partir de l'âge de 12 ans, mais comme
vous faisiez d'autres sports avec, voilà.
Voilà, c'est-à-dire que vous êtes encouragé dans les écoles à pratiquer plusieurs sports à la fois, et donc je faisais du hockey en même temps que d'autres sports. Et ce qui est bien et ce qui est pas bien à la fois, parce que beaucoup de joueurs avec qui je joue aujourd'hui n'ont fait que ça depuis tout petit, et donc ils sont d'un niveau technique très fort. Moi, ma progression technique a été beaucoup plus forte plutôt quand j'étais en faculté ou dans la vie adulte, parce que je me concentrais pas trop sur le hockey avant l'âge de 21 ans. Donc j'ai beaucoup plus progressé dans ma vie adulte que peut-être dans ma vie adolescente. Mais aujourd'hui, les joueurs que je côtoie sur la France, ils ont été élevés dans les écoles de hockey depuis l'âge de 7-8 ans.
D'accord. Vous jouez encore, Gary? Parce que je pense avoir l'homme à tout faire. Hein. Vous jouez, président, je sais que vous êtes au service.
C'est exact. Oui, tout à fait. Oui. Je suis même le référent de l'arbitrage au club de Saint-Germain. En fait, je suis inscrit en tant que joueur à Saint-Germain-en-Laye. Donc, je joue en équipe 3 parce que à mon âge, hier, j'ai eu 60 ans. J'ai fêté mes 60 ans, donc quand même jouer en équipe 2 ou équipe 1 à mon âge, c'est un peu inespéré quand même. Hein. Donc, faut accepter qu'on avance en termes de d'âge. En revanche, je joue en vétéran aussi. Je joue parce que la catégorie vétéran existe depuis quelques années maintenant en France et ça commence à bien se développer. C'est très très développé en Angleterre, très développé aux Pays-Bas. Et dans les, mais en France, on était un peu en retard sur ce développement, mais nous avons bien rattrapé le coup parce que aujourd'hui, ce qu'on appelle les masters, maintenant, les équipes françaises participent systématiquement à des compétitions Coupe d'Europe pour les masters hommes et femmes. Masters hommes et femmes et toutes les catégories d'âge. De 40 à 45, 50, 55 et là maintenant je suis qualifié pour jouer dans la catégorie plus 60 et ça va jusqu'à plus 70 quand même hein. Donc
Oui. Il y a encore de belles années quoi.
J'espère qu'il y a des belles années devant moi. Oui.
Alors, on va rappeler quand même que c'est un sport d'équipe, le collectif, il est très important, peut-être plus encore que le rugby par exemple, que dans le rugby.
Oh, je sais pas si on peut comparer un sport à un autre à ce niveau-là. Je pense que tous les sports collectifs exigent un certain esprit et une certaine façon d'être. On aime le sport collectif ou on l'aime pas. Pour certaines personnes, ils sont mieux adaptés, je pense, pour des sports individuels. D'un point de vue tempérament. Et ça dépend ce que vous cherchez, en fait. Et moi, j'ai toujours cherché à faire partie d'un groupe, une équipe. D'ailleurs, c'est ce qui me plaît dans le travail aussi, de travailler en équipe. Et je pense qu'on est comme ça ou on n'est pas comme ça. Je pense que ça peut être une question d'éducation. Je pense que c'est aussi une question de tempérament. Et ce qui est clair, c'est que c'est quelque chose que je recherche. Et je pense que les autres qui le font, ben, en général, c'est, on reconnaît le type. On est tous, je pense, à la recherche d'une expérience collective. On gagne ou on perd ensemble, et le plaisir de gagner est un plaisir collectif, comme le chagrin de perdre, c'est collectif aussi, c'est partagé. Et c'est très humain.
Alors, on s'oriente vers tel ou tel poste en fonction de son gabarit, de sa morphologie dès le départ.
Il y a une différence entre les gardiens de but et les autres. Je veux dire, quelqu'un qui est gardien de but, qui est très grand, a certainement un avantage. mais je dirais pas que le fait d'être grand ou petit oriente quelqu'un vers d'être un meilleur attaquant ou un meilleur défenseur. Je pense pas que on peut faire ce constat-là. Je pense que c'est vraiment une question. Je pense que c'est plutôt les capacités physiques de vitesse. Vision du jeu, ceux qui sont par exemple des bons visionnaires de jeu et qui sont des bons distributeurs de balles, joueraient au milieu de terrain.
Fait des numéros 10 de foot, quoi. C'est ça. Ça fait des numéros 10.
C'est très similaire au foot en fait, termes de instinct et de compréhension du jeu. Techniquement, c'est très différent, mais tactiquement, peut-être pas.
Ouais. Il y a du coaching aussi, qui parfois peut être difficile. Pas décisif.
Bien sûr, un bon coach qui motive. Parce qu'un coach, ça fonctionne à plusieurs niveaux. Déjà un coach qui apporte peut-être une certaine expérience, d'abord technique, tactique, quelqu'un qui a une bonne vision du jeu, et qui sait communiquer. Je pense qu'un coach, c'est comme tous les sports, hein, un bon coach qui est bon communicant et qui sait fédérer ses joueurs. Et qui leur donne de la croyance dans ce qu'ils font et qui leur donne de la croyance en ce qui est possible, qui les motive bien. Un bon coach, il vaut de l'or, c'est clair.
Ah oui. Alors, on en reparlera avec Benoît sur les Yvelines, mais d'une façon générale, le hockey sur gazon est un sport assez méconnu en France. Qu'est-ce qui manque pour que ce sport soit véritablement populaire? Peut-être une véritable icône, une équipe de France qui puisse, pourquoi pas, briller dans les différentes compétitions internationales?
Alors, c'est clair que le succès d'une équipe nationale est un facteur utile et important. En revanche, ce n'est pas que ce seul critère. Je pense que c'est à la base les facteurs qui créent le succès d'un sport dans un pays sont beaucoup plus diverses et variées. Je pense que d'espérer que une équipe de France qui réussit va immédiatement déclencher une pléthore de joueurs qui veulent pratiquer le sport, ça peut arriver, mais ça ne remplace pas le bon travail du terrain de tous les jours. On a parlé du Maison des Fidoki Club. C'est quand même cette approche de créer partout les petits clubs, de créer un nombre de joueurs. C'est vraiment, je pense, une question de porter le message vers les jeunes, vers les enfants dans les écoles, de faire connaître ce sport. Et ça, c'est vraiment un travail de terrain de tous les jours, de gens engagés, des gens qui ont une passion. Bien sûr, ça demande un certain nombre de moyens aussi. Donc la fédération qui œuvre tous les jours pour trouver des moyens, soit des sponsors, soit du soutien de l'État pour quand même investir dans le sport. C'est clair que un sport a besoin de moyens pour déployer ce travail de terrain, de pédagogie, de promotion. C'est à la base c'est ça, mais clairement quelque chose qui et je pense que le hand c'est un bon exemple de ça, une équipe de France qui réussit et qui réalise des exploits, c'est clair que ça crée un buzz, ça crée une image pour le sport qui peuvent inspirer les autres.
Voilà. Alors, il y a aussi des filles qui jouent au hockey sur gazon. Hein.
Tout à fait. Oui.
Ouais. Ça aussi, ça plaît chez les jeunes filles. C'est un sport.
Nous avons des filles dans nos effectifs. Moi, j'ai toujours connu le hockey en étant un sport masculin et féminin. Et c'est vrai que c'est un très très beau sport pour les jeunes filles. En fait, le hockey, c'était un sport féminin. Autant féminin que masculin, bien avant que le foot découvre cette possibilité. Les filles ont toujours beaucoup pratiqué le hockey. Aujourd'hui, c'est super de voir les filles jouer au foot. Je trouve que c'est très très bien parce que les filles peuvent jouer au foot et on a bien montré. Et le rugby féminin aussi est quand même c'est très beau à voir, c'est spectaculaire. Aujourd'hui, le niveau des joueuses dans le rugby international c'est vraiment impressionnant. Physiquement, les filles ont vraiment développé des capacités physiques pour pratiquer ce sport. Le hockey le fait depuis beaucoup plus longtemps. On joue très souvent avec des équipes mixtes dans les matchs amicaux. Les filles qui sont techniquement très fortes peuvent facilement compenser une différence de physique avec une bonne habileté technique. Je pense que c'est un des points forts du hockey en fait. Le fait qu'on est un sport de parité. Et un sport très égalitaire. Et moi, j'ai des joueuses dont mes effectifs à Maison Lafitte qui ont commencé plutôt timides et aujourd'hui, je ne les reconnais plus parce qu'elles ont pris confiance en elles-mêmes. Physiquement, elles se rendent compte de leurs capacités et c'est un vrai plaisir à voir ces filles se rendre compte qu'elles peuvent rivaliser avec des garçons et puis jouer avec eux de façon égale et bien profiter de ce sport.
On va rappeler que ce sont des. Vous êtes arbitre. C'est facile, l'arbitrage. On peut passer du terrain à l'autre côté de la barrière facilement.
C'est jamais facile d'arbitrer dans n'importe quel sport. Mais c'est important. Mais c'est important parce que sans les arbitres, le match ne peut pas avoir lieu. Parfois, il faut être assez psychologue. Il faut avoir une bonne relationnelle. Il faut pas prendre les joueurs du haut. Il faut communiquer avec eux. Il faut être ferme dans ses décisions. Et surtout, il faut qu'on fasse plus d'efforts dans le hockey, de former les jeunes à prendre du plaisir à faire de l'arbitrage, parce que c'est un travail important. Et c'est pas quelque chose que tout le monde a envie de faire souvent. Mais c'est une question de confiance aussi. Plus on le fait, plus on s'y habitue et plus on a confiance en soi-même.
Est-ce que le public de hockey sur gazon est un public sage?
En général, oui, 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 tout à fait, tout à fait, oui, oui, oui. Il y a toujours des moments où les gens s'emportent un petit peu quand ils regardent leur club jouer, quand ils sont pas d'accord avec une décision d'arbitrage, par exemple. Globalement, c'est un public. En fait, le public de hockey est en général un public assez connaisseur parce qu'ils sont, sont dans la majorité des cas joueurs ou anciens joueurs. Et donc, c'est un public bien expert qui apprécie ce qu'ils voient sur le terrain de façon très directe parce qu'ils ont pratiqué le sport eux-mêmes. Je pense qu'il y a un certain respect dans le hockey et une camaraderie parce que en France, en tout cas, on n'est pas forcément très nombreux en tant que nombre de licenciés. Donc c'est presque une famille le hockey. Ce qui est aussi un peu son inconvénient, parce qu'en fait, on devrait être plus nombreux en tant que joueur et en tant que licencié. Faut garder ce côté familial, mais il faut aussi savoir recruter beaucoup plus de licenciés.
Très bien. Eh bien, Gary, merci de nous avoir présenté, en tout cas, le hockey sur gazon, hein, tel que vous l'avez vécu en tant que pratiquant. Bon, on vous en veut pas trop de nous avoir battu sur le rugby. Hein.
Alors, je vais vous dire très sincèrement, c'est un peu mitigé pour moi parce que maintenant j'ai la double nationalité.
Mais
honnêtement, le constat que je fais sur samedi dernier, c'est que franchement, sur la globalité du match, franchement, la France méritait de gagner. Les Anglais, ils ont bien géré leur match, mais la France, bon, c'est bon. De toute façon, le plus important, c'est 2023.
Voilà, effectivement. Merci Gary, en tout cas.
Je vous en prie.
Et puis on va aller rejoindre Benoît pour la deuxième partie de cette émission.
Les beaux jours arrivent. N'attendez plus et préparez leur arrivée. La Bassienne de Menuiserie, votre spécialiste en menuiserie, reconnu au Grenelle de l'environnement, situé au Péray en Yvelines, vous propose une offre spéciale du 1er au 31 mars 2021. Besoin d'une terrasse ombragée? Profitez de 20% de remise sur toute la collection de stores de terrasses Francia Flex. Besoin de privacité dans votre jardin? Profitez de 15% de remise sur toute la collection de portails aluminium custom. Le tout garanti 100% fabrication française. Venez vite en magasin découvrir nos produits. Les devis sont toujours gratuits, voire conditions en magasin. À Bassienne de Menuiserie, showroom au 27 rue de Chartres, au Péray en Yvelines.
Bâti Pro France, les compagnons maçons de Rambouillet, votre partenaire pour les projets neufs ou de rénovation, petits ou gros œuvres. Bâti Pro France est votre spécialiste pour la réalisation de tous vos travaux, de maçonnerie générale, pavillon individuel, toiture, fenêtre, carrelage et l'installation de votre portail. Pour des réalisations de qualité qui bénéficient de la garantie décennale et forte d'une expérience de 20 ans. Confiez-nous vos projets en toute sérénité. Vous avez un projet? Appelez Bâti Pro France, les compagnons maçons de Rambouillet. Devis gratuit au 01 30 88 97 54 et sur bâtipro-france.com.
Vous recherchez la brillance absolue? L'horlogerie bijouterie Joaillerie Galloni, 19 rue du Général de Gaulle à Rambouillet, vous invite à découvrir le seul diamant carré taillé comme un brillant rond parfait. Le Flanders Cut est un diamant d'exception à la brillance extrême, fait pour vos colliers, pendentifs, boucles d'oreilles, bagues, bracelets et parfait pour toutes les formes de sertissage. Pour le plaisir d'offrir, choisissez le Flanders Cut à la brillance extrême. Horlogerie bijouterie Joaillerie Galloni, 19 rue du Général de Gaulle à Rambouillet. Ouvert de 10h à 19h mardi, jeudi et samedi et de 10h à 12h30 et de 14h à 19h le mercredi et vendredi.
Et maintenant, une demi-heure sans pub. Une demi-heure sans pub sur RVE.
Vivez le sport dans votre région avec RVE.
Voilà, deuxième invité de cette matinée sportive, eh bien le président du comité départemental de hockey sur gazon, Benoît Audoyer. Benoît, bonjour.
Audoyer,
bonjour. Pardon, effectivement. Ouais. Benoît, bonjour. Alors, Benoît, comment devient-on président du comité départemental, d'abord, d'un sport aussi confidentiel que le hockey sur gazon?
Disons que j'ai connu le hockey, je suis pas hockeyeur déjà.
Oui, c'est ça qui est intéressant.
J'ai jamais joué au hockey, par contre, j'ai été converti par mes enfants.
D'accord.
Qui ont pratiqué le hockey, le plus grand d'abord, le plus petit ensuite. Et, et petit à petit, en assistant au match au bord, en supportant ses enfants, on devient de plus en plus impliqué, on se passionne. Et puis on s'implique d'abord dans le club, et puis après au comité départemental, parce qu'on a envie de faire des choses, on a envie de développer, de faire voir ce sport, qui est absolument super. Et donc voilà, petit à petit, les choses se font comme ça, et on finit élu, et puis on se passionne à nouveau. On embauche des salariés, des agents de développement, et puis me voilà.
Voilà. Alors c'est un sport qui marche bien dans les Yvelines, parce que il y a quelques clubs importants. Hein, on en a parlé tout à l'heure avec Gary, Saint-Germain, Maison Lafitte notamment.
Voilà. Alors Maison Lafitte, c'est un club qui vient d'être créé, hein, oui. qui a 2 ans d'existence.
Ouais, avec...
Au départ, on s'est appuyé. Notre stratégie de développement, en fait, elle a été essentiellement basée sur les clubs existants. Hein, donc les clubs historiques, c'est Saint-Germain et le Racing Club de France qui est basé à Hockey. Le Racing Club de France Hockey qui est basé à Versailles. Et donc, on a développé autour de ces clubs, puisqu'il y avait déjà des infrastructures qui existaient, des infrastructures extérieures. Et donc, on a d'abord travaillé sur Saint-Germain parce que c'était plus facile pour nous. Et donc, on a développé 2 nouveaux clubs, Poissy et Maison Lafitte, ce qui fait qu'aujourd'hui, on compte 4 clubs dans les Yvelines, dont 2 des plus anciens. Et je pense qu'on doit être loin d'être le département qui a le plus de titres, puisqu'on doit dépasser la 20aine de titres entre le Racing et Saint-Germain. Voilà. Saint-Germain a 8 titres et le Racing une 12aine, une 15aine peut-être.
Est-ce que vous avez des demandes pour d'autres clubs de certains coins des Yvelines, par exemple tiens, dans la région de Rambouillet, Saint-Arnoux, Chevreuse,
alors,
pourquoi pas?
Pourquoi pas le, il faut qu'on soit d'abord un peu plus visible. C'est vrai que il faut qu'on nous connaisse un peu plus. Pour ça, notre stratégie de développement, elle est essentiellement sur les écoles. On essaye de travailler beaucoup avec les écoles. On a signé hier une convention avec la direction nationale du sport en éducation nationale. Et donc, on va développer, d'abord, montrer notre sport aux professeurs des écoles et aux professeurs d'éducation physique. Et puis, on va essayer de les inciter à faire entrer ce beau sport dans les écoles et dans les collèges, et pourquoi pas dans les lycées après, pour justement faire pratiquer le plus de personnes possible. Aujourd'hui, à peu près par an, alors je mets entre parenthèses l'année 2020, qui est une année un peu
ouais,
chaotique,
particulière. Ouais.
Mais on a à peu près 3000 enfants qui découvrent le hockey tous les ans, à travers les écoles, à travers le périscolaire dans les communes, à travers les camps, pendant les stages multisports, pendant les vacances. Et donc voilà, on essaye de combler notre déficit de visibilité le plus possible, et je dois dire que ça marche pas mal.
Oui, et vous avez un gros projet sur Rambouillet d'ailleurs.
Alors on a un projet qui se passe actuellement, donc
oui.
Un étudiant en STAPS qui s'est pris de passion pour le hockey en le découvrant au Crêpes à Châtenay-Malabry pendant ses études, et qui a décidé
qu'on connaît
de faire
bien.
Sur Rambouillet, dans une école, dans un collège, pardon, il va me gronder si je me trompe. Dans un collège sur Rambouillet, il y a 20aine d'enfants, une classe, et donc il en est à son 2e cours, il fait découvrir le hockey à ses élèves, ça marche pas trop mal. Et je dois dire que on espère que ça va se développer. Voilà, c'est le collège du Rondeau.
Voilà, c'est ça, ouais, qu'on connaît bien. Est-ce que c'est un sport qui est cher pour les parents, pour ceux qui éventuellement voudraient inscrire leurs enfants? C'est un sport accessible au niveau licence et surtout au niveau équipement?
Au niveau licence, ça dépend un petit peu des clubs. Hein. Je dirais que dans un club comme Maison Lafitte ou Poissy, la licence est autour de 150 euros. Dans un club un peu plus huppé, elle est autour de 200-250 euros pour les enfants. Bon, alors après, il faut voir aussi que ça recouvre les entraînements, ça recouvre les matchs le week-end, ça recouvre des déplacements en région parisienne, mais ça peut aussi être au niveau national, voire au niveau international. On essaye de promouvoir le plus possible la compétition, mais il n'y a pas que la compétition, il y a aussi le loisir. Et donc, on essaye d'avoir des rencontres plusieurs fois par semaine pour l'ensemble des pratiquants. Au niveau matériel, en principe, quand on débute, le club fournit la crosse, hein, qui est une crosse en bois. Les balles sont fournies par le club. Alors la balle, c'est une grosse balle de golf, et donc voilà, qui permet de qui est un peu lourde, mais qui permet de manier la crosse facilement, qui se manie avec la crosse. Et puis on y tient au niveau protection, donc un protège-dents et des protège-tibias.
Voilà. Oui, et
ils sont un peu particuliers
gardiens,
parce qu'ils protègent la malléole. C'est un peu plus qu'une protection de foot qui protège que le tibia, mais là on va jusqu'à la malléole. Voilà. Et pour les gardiens, on a un équipement très spécifique qui est très très proche de l'équipement du hockeyeur sur glace. Parce que la balle peut aller assez vite et même si on n'est pas censé lever la balle, jouer la balle en hauteur quand elle est dangereuse, un accident ça peut arriver, mais quand on est dans les buts, oui, on a toute la dimension du but qui peut être joué.
Oui. Alors sur quel type de surface jouez-vous? Vous jouez donc sur synthétique, vous jouez aussi
sur du synthétique.
En indoor, en salle?
Ça se joue. Alors pendant la belle saison, donc l'automne et le printemps et l'été, ça se joue en extérieur sur un terrain qui est à peu près de la dimension d'un terrain de foot. Ça se pratique à 11 en extérieur, oui. Mais
comme au foot, donc un poste spécifique
comme au
foot.
Comme au foot. Hein, mais la différence avec le foot, c'est que il y a 16 joueurs sur la feuille de match et les 16 joueurs entrent sur le terrain.
Oui,
sont susceptibles de rentrer sur le terrain à n'importe quel moment.
D'accord. Ouais.
Voilà. Et donc c'est la différence. Et le terrain fait à peu près la taille d'un terrain de foot.
Oui. Et pour le grand public, ce sont des matchs qui durent combien de temps?
Ça dure 70 minutes divisé en quart-temps de 17 minutes 30.
D'accord. Il y a des temps de repos naturellement entre les cartons ou
non.
Peut-être.
Enfin oui, il y a des temps de repos, mais très faibles. Donc ce sport a la particularité d'avoir très très peu d'arrêts de jeu. C'est pour ça que les changements peuvent être effectués à n'importe quel moment. On n'arrête pas le jeu pour faire un changement. C'est comme un peu comme au hockey sur glace. Joueurs rentrent et sortent en fonction des décisions de l'arbitre ou de leur fatigue. Et donc ça tourne.
Alors, il y a des sports approchants, bon, hockey sur glace, mais ça c'est sur la glace. Et il y a le hockey aussi qui se fait en salle. Non, vous pourriez avoir des points communs, non? Non, pas du tout.
Même la crosse, c'est différent puisque la crosse de hockey sur gazon, elle est courbe à la fin. Il y a un bec et on peut jouer avec la crosse que d'un seul côté. Donc, ça n'a pas grand-chose à voir avec le roller hockey ou le hockey sur glace, puisque ce sont deux sports cousins, le roller hockey et le sport sur glace, puisque les joueurs de l'un peuvent jouer peuvent pratiquer l'autre sport. Nous, non. Nous, on court à pied pendant 70 minutes. Alors, c'est un peu moins long en salle, parce que c'est plus éprouvant. Mais voilà, c'est le sport en salle donc se pratique à 2x8. Et il y a d'autres pratiques aussi qui sont possibles, qui sont le hockey 5, qui se joue sur un terrain beaucoup plus petit. Ils sont 5 sur le terrain. Alors, c'est pas très développé en France, mais à l'étranger, on le développe beaucoup, surtout pour les jeunes.
Donc, des compétitions aussi, des championnats départementaux, régionaux, hein, comme dans tous les sports.
Tout à fait. Alors, c'est les championnats. Je parlerai plus de championnats régionaux, départementaux. On va les mettre en application puisque on a suffisamment de clubs pour faire un petit tournoi. Je n'appellerai pas ça un championnat parce qu'on a que 4 clubs en Yvelines, donc c'est un peu court pour s'appeler un championnat. Mais des tournois, ça c'est sûr. On va les mettre en place. Quand on pourra, puisque ça fait pas longtemps qu'on est 4, donc on a suffisamment de, de, de joueurs et de clubs pour pouvoir faire un championnat qui ressemble à quelque chose, un tournoi au moins. Donc ça va être mis en place très prochainement. Ensuite, il y a les tournois de régionaux, les tournois de zone et des finales championnats. Il y a plusieurs échelons. Donc, le plus élevé, le plus spectaculaire, c'est l'élite. Et puis ensuite, on a la nationale 2, la nationale 3, la nationale 4.
Avec des montées descentes, quoi.
Comme dans tous les sports.
Et sur un plan plus international, bon, il y a les participations aux Jeux Olympiques, hein. On sait que c'est un sport olympique, mais il y a aussi
un sport olympique depuis 1908.
Ah oui, c'est ça, un des plus vieux sports.
Un des plus anciens sports olympiques.
Ouais. C'est bien. Et donc, il y a aussi des Coupes du Monde, il y a aussi en parallèle
des Coupes d'Europe. Il y a aussi des Coupes d'Europe. Ouais. Il y a des divisions dans les Coupes d'Europe et les Coupes du Monde, c'est-à-dire que tous les pays ne participent pas au même niveau, hein, puisque les niveaux sont différents. Mais donc, il y a des tournois de World League européens, il y a des tournois internationaux dès les U18, U20, U21, etc.
Ah oui. Et que ce soit en club ou en équipe nationale, hein.
Il y a des compétitions. Que ce soit en club ou en équipe nationale, on a en club on a l'EHL qui correspond à la Champions League au foot, hein, ça parle plus à vos auditeurs, mais l'EHL qui est le niveau le plus élevé en Europe, et ensuite on a des coupes d'Europe un peu différentes et d'autres tournois internationaux comme la coupe interceltique donc filles et garçons.
Voilà, alors on a vu qu'avec Gary, c'était un sport très populaire en Angleterre, hein, parce qu'en Angleterre, on fait de tous les sports, y compris donc du hockey sur gazon. Quels sont les autres pays où ce sport est populaire et où peut-on en vivre comme professionnel?
En tant que professionnel, bien en vivre, je pense que c'est en Hollande et en Belgique qu'on doit pouvoir vivre du hockey. Est-ce qu'on en vit bien, je sais pas. Il y a quelques professionnels peut-être en Angleterre aussi. Alors l'origine du hockey, donc c'est un sport très ancien, parce qu'on a trouvé des traces dans l'Antiquité. Il y a des sculptures, des bas-reliefs qui montrent des joueurs qui manient la crosse et une balle. Quand ça se jouait sur herbe, les grandes nations du hockey, c'était l'Inde et le
Pakistan peut-être.
Et le Pakistan, hein. Donc c'est des nations qui ont trusté les médailles olympiques au début des Jeux olympiques. Quand on est passé aux structures artificielles, le gazon synthétique, le physique a pris le dessus. Et je dirais que ce sont plutôt les nations de l'Ouest qui ont pris le dessus. On a l'Australie, la Nouvelle-Zélande, qui sont des pays où le hockey est bien représenté et qui ont de très bons résultats aussi au niveau international. L'Angleterre, la Hollande, surtout la Hollande, l'Allemagne, la Belgique maintenant, puisque c'est la Belgique qui tient le titre de champion du monde aujourd'hui.
Ah oui,
c'est un peu notre exemple. Mais voilà, c'est les pays qui sont un peu sur le devant de la scène.
Alors Benoît, comment expliquer qu'en France, on soit un peu en retard au niveau des résultats sur le plan international et national? Et puis, pourquoi n'en voit-on très peu?
Alors, c'est vrai que encore une fois, on souffre d'un déficit de visibilité. Les résultats, alors oui, je disais que les dernières représentations de l'équipe de France aux Jeux Olympiques, c'est 1972, mais on a actuellement une très très belle génération. On a raté Rio à un match près, la dernière. Qualification pour Tokyo, on a été jusqu'au dernier match et on perd le match de qualification d'un but. Donc on est très proche de briller. On espère faire tout ce qu'il faut. En tout cas, la fédération met tout ce qu'il faut sur la table pour que aux Jeux Olympiques de Paris qui auront lieu en 2024, on puisse briller et montrer notre sport au plus haut niveau.
Oui, parce que fatalement, quand on voit des champions à la télé, il y a des jeunes qui veulent s'identifier. Donc fatalement, c'est aussi une manne pour un sport. Hein.
Tout à fait, tout à fait. On compte beaucoup sur les JO de Paris pour donner un coup de boost à notre sport. On progresse tous les jours. La dernière compétition, on a pu battre l'Argentine. On fait des exploits, mais ce sont des exploits qui restent encore confidentiels. Et j'espère que grâce au JO et à la couverture médiatique, on arrivera à faire percer notre sport. Il faut savoir qu'aux Jeux Olympiques de Londres, par exemple, le hockey a été le deuxième sport le plus regardé.
Ah oui, ça ne m'étonne pas. On connaît la passion des Anglais pour le hockey sur gazon. Et pour les féminines, comment ça se passe actuellement dans notre département?
Alors, on connaît les mêmes difficultés que dans les autres sports pour faire jouer les filles. Mais je dirais que le hockey est un sport qui, dans beaucoup de pays, est essentiellement féminin. En Argentine, par exemple, les championnes, on les appelle las Leonas, elles sont aussi connues que des grands sportifs argentins comme Maradona ou basketteur ou Léo Messi. Hein. Les basketteuses sont très connues. Chez nous, dans les Yvelines, on est assez chanceux parce qu'on a à peu près un petit tiers de pratiquants qui sont des féminines, et on fait tout ce qu'il faut pour progresser et essayer de faire jouer ces dames à tous les niveaux, en loisirs et jusqu'au plus haut niveau.
Alors Benoît, pour finir cette interview, hein, avant de tirer la conclusion de notre émission, naturellement, je pense que les problèmes sanitaires rencontrés un peu partout, ça pose aussi des problèmes à votre sport.
Tout à fait. Tout à fait. Bon, d'abord, il faut. On a pu aujourd'hui donc s'organiser puisque la pratique en extérieur est autorisée. Donc aujourd'hui, on pratique les entraînements, essentiellement des entraînements. Les championnats n'ont pas repris, mais on espère qu'ils vont pouvoir reprendre, mais c'est même pas sûr parce que là, il nous reste de moins en moins de temps. Donc on pratique plutôt en loisirs et en entraînement. Sur les extérieurs, évidemment, la pratique en salle a été arrêtée, mais grâce à la solidarité qu'il y a entre les clubs, je dirais que on arrive à trouver des créneaux en extérieur pour faire jouer tout le monde. Voilà, et puis la difficulté, c'est effectivement aussi le recrutement. On a quand même perdu quelques licences et on espère bien mobiliser et retrouver un élan une fois que la vie sera un peu plus normale.
Très bien. En tout cas, merci Benoît Audoyer d'être venu justement nous parler de hockey sur gazon. Et puis, à très bientôt. Puis, n'hésitez pas, hein, vous nous contactez dès qu'il y a des bonnes infos du côté de votre sport. OK?
Merci beaucoup de cette invitation.
Voilà.
C'est un plaisir.
Merci. Voilà, la deuxième page de musicale, et ensuite on conclut notre émission.
Vous écoutez RVE sur 103.7. RVE 103.7.
demoiselle, c'est une fille de...
Électricité, entreprise familiale depuis 1981, est votre spécialiste dans les Yvelines pour tous vos travaux électriques. Création et rénovation chez les particuliers comme les professionnels. Nous vous proposons également l'installation d'interphones, de vidéosurveillance et de détecteurs incendie. Brifo Électricité assure l'installation et la gestion de votre chauffage électrique. Votre satisfaction est aussi la nôtre. Devis gratuit, dépannage rapide. Informations et réservations au 01 30 46 11 56 ou sur notre site brifo-électricité.com.
Il n'y avait plus cette petite flamme entre nous. Je le trouvais vieilli, terne, ennuyeux. Bref, je pouvais plus le voir. Alors je l'ai remplacé. Et celui-là, il a vraiment tout ce qu'il faut. Brillant, classe. Je ne me lasse pas de le regarder.
Plafond fissuré, vieilli, peinture et caillé. Avec Creative Design, le spécialiste du plafond tendu, changez pour un plafond séduisant. Mat, brillant ou satiné, Creative Design pose votre nouveau plafond dans la journée. Sans poussière et sans odeur.
Une œuvre d'art.
Rendez-vous sur creativedesign.fr 01 58 88 21-20.
Vous voulez vendre, acheter un bien sur Aufargis, Le Perret ou Vieille Église? Appelez Pierre Burtel, votre agent conseil en immobilier, au 06 43 27 13 08 et bénéficiez des honoraires réduits de l'agence ImmoJust. Pierre Burtel au 06 43 27 13 08.
Et maintenant, retour des hits sur RVE.
But life still goes on. I can't get used to living without, living without, living without you by my side. I don't want to live alone. Hey, God knows, got to make it on my own. So baby, can't you see, I've got to break free, I've got to break free.
Le sport dans votre région avec RVE.
Voilà, merci à Gary et merci à Benoît de nous avoir fait pénétrer à l'intérieur des coulisses du hockey sur gazon. Cette émission, vous pourrez naturellement la réécouter en podcast très rapidement dans la journée. Je voulais simplement aussi, pour finir cette émission, revenir naturellement sur le Paris une cycliste hein, de la semaine dernière, parce qu'il restait encore une petite étape entre Plan du Var et Le Vins de 93 km. Victoire de Kort Nielsen, le Danois, devant Christophe Laporte de l'équipe Cofidis. Mais une dernière étape qui a eu malheureusement, eh bien, qui a vu Roglic tomber et qui a sombré dans cette dernière étape. Une étape donc à suspense. Et du coup, Roglic, en ayant perdu plus de 2 minutes sur le vainqueur, eh bien, a perdu aussi le Paris-Nice. À l'arrivée, donc, c'est Maximilian Cham, l'Allemand qui s'impose pour la deuxième année consécutive devant Vyassov, le coureur d'Astana, deuxième à 19 secondes, le Russe, troisième l'Espagnol Izaguirre à 23 secondes, quatrième Hamilton, le coureur australien à 41 secondes et cinquième Benoît, le coureur belge à 42 secondes. Guillaume Martin termine premier français à donc sixième à 1,14 et puis Roglic qui a perdu donc beaucoup de temps, on l'a dit dans cette dernière étape, termine 15e à 2 minutes 16 secondes. Voilà, merci de nous avoir été fidèles donc dans cette émission de printemps, la première en confinement pour quelques semaines. On va remercier naturellement Damien d'avoir été aux manettes ce matin. Et puis on se retrouve la semaine prochaine à la même heure, 10h-11h. Bon dimanche à tous et à tous. Salut.
Chaque dimanche, 10h-11h, sur RVE, retrouvez toute l'actualité sportive, locale, régionale, nationale et internationale dans Tribune Sport avec Philippe Carnu. Il est 11h.
RVE, le point sur l'actualité nationale et internationale.
Bonjour à tous. Olivier Véran refuse de parler de confinement en France. Le ministre de la Santé a insisté sur le fait que le gouvernement n'empêche pas les Français de sortir. Dans une interview accordée hier aux Parisiens, il a indiqué, je cite, « Ce terme évoque aux Français les semaines difficiles qu'ils ont passées enfermées chez eux ». Le ministre propose même un slogan pour ces nouvelles mesures imposées à 16 départements. « S'aérer pour souffler, se distancier pour se protéger ». Et pendant ce confinement, certains commerces pourront tout de même rester ouverts. Les coiffeurs, les cordonniers, les chocolatiers, les libraires ou encore les fleuristes pourront accueillir du public dans le respect des mesures sanitaires. Quelques 21 millions de Français sont concernés.